Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Ravi de vous retrouver ce mardi 11 septembre 2019. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. En direct de Washington, je suis Irénée Hermann-Longo en compagnie de
Michel Joseph.
Nous avons le plaisir de vous présenter cette édition dont voici les titres.
Cameroun, Paul Biya convoque un grand dialogue national pour résoudre la crise anglophone.
Au Tchad voisin, trois régions en proie à des conflits armés sont de nouveau sous état d'urgence.
Cri d'alarme de Human Rights Watch au Nigeria. L'ONG réclame la libération des milliers d'enfants détenus par l'armée en raison de liens présumés avec les insurgés islamistes.
Au moins 31 morts et une centaine de blessés, c'est le bilan des conséquences de la bousculade qui a eu lieu hier à Kerbala lors du pèlerinage chiite d'Ashura en Irak.
18 ans après, les Américains se souviennent du 11 septembre.
Le 11 septembre 2001, l'inimaginable est arrivé sous le sol américain. Deux avions percutent les tours jumelles du World Trade Center à New York.
La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique, y compris celle du sport, sera également au rendez-vous, mais avant tout, le journal.
Au Cameroun, un grand dialogue national est convoqué pour résoudre la crise anglophone. Il se tiendra à la fin de ce mois. L'annonce a été faite hier par le président camerounais Paul Biya. Les précisions avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
C'est le premier ministre actuel, un anglophone de la région du Sud-Ouest, qui va présider cet important rendez-vous. Parmi les invités à ce grand dialogue national, le président du Cameroun a cité entre autres des groupes armés, des représentants des forces de défense et de sécurité et des membres de la diaspora. Le grand dialogue national exclut tout débat sur la forme de l'État. Le Cameroun reste un et indivisible, a martelé Paul Biya, qui a par ailleurs, sous un ton ferme, rejeté l'idée de la marginalisation des anglophones. S'agissant des dernières décisions de justice condamnant M. Ayouk Tabé et les autres leaders séparatistes anglophones à la prison à vie, le président a évoqué la possible éventualité du pardon et du droit de grâce sous certaines conditions. Toutefois, a-t-il nuancé, l'on ne peut tranquillement assassiner dans l'espoir qu'un éventuel dialogue permettra d'effacer tous ces crimes. Paul Biya a lancé une nouvelle fois un appel aux groupes armés à déposer les armes et demander aux pays étrangers qui abritent les extrémistes anglophones d'agir, citation, contre ces criminels. Fin de citation. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Cameroun, au Tchad, j'allais dire, le Parlement a prorogé hier l'état d'urgence de 3 mois dans 3 régions en proie à des conflits armés. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice, le point avec Abdourahman Dia.
Selon Djimet Arabi, une prolongation était nécessaire compte tenu de la saison des pluies qui rend certaines zones non accessibles pour l'armée. L'accord du Parlement était nécessaire pour prolonger l'état d'urgence de 3 mois. 115 ont voté pour et il y a eu 2 abstentions. Le président Idriss Déby Itno l'avait décrété mi-août dans 2 provinces de l'Est, le Sila et le Wadaï, après des affrontements meurtriers entre communautés d'éleveurs nomades et de cultivateurs sédentaires qui avaient fait plus de 50 morts en quelques jours. Le chef de l'État avait également instauré l'état d'urgence dans une province du Nord-Est, le Tibesti, frontalière avec la Libye, où opèrent des orpailleurs illégaux et des rebelles tchadiens. La mesure avait cependant inquiété certains acteurs de la société civile et des défenseurs des droits humains qui craignent des excès de l'armée.
Human Rights Watch a exhorté le Nigeria à libérer des milliers d'enfants détenus par l'armée en raison de liens présumés avec les insurgés islamistes. Des détails avec Nathalie Barge.
Human Rights Watch affirme que ces enfants sont détenus dans des conditions inhumaines, en particulier dans la caserne de Giwa à Maïdougouri. De nombreux enfants sont détenus sans inculpation pendant des mois ou des années dans des casernes sordides et surpeuplées, indique l'ONG dans un rapport. Human Rights Watch dit avoir interrogé 32 enfants, dont le plus jeune n'avait que 5 ans. Certains ont dit avoir été arrêtés après avoir fui des attaques des insurgés. Plusieurs filles enlevées ont été victimes de mariages forcés pratiqués par les islamistes. Boko Haram a souvent utilisé des enfants, dont des fillettes d'une dizaine d'années, pour mener des attentats suicides. L'armée nigériane a rejeté les conclusions de ce rapport, affirmant que les enfants sont gardés dans des sites sécurisés où ils sont nourris de manière adéquate, que leur profil est examiné et qu'ils sont déradicalisés avant d'être remis en liberté.
Toujours au Nigeria, plusieurs soldats ont été tués dans une embuscade tendue par des djihadistes au passage d'un convoi militaire dans le nord-est du pays, ont indiqué des sources sécuritaires. Des combattants du groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, issus d'une scission de Boko Haram, ont ouvert le feu sur un convoi qui se rendait lundi vers la ville de Gundumbali dans l'État de Borno. ISWAP a revendiqué la responsabilité de cette attaque, affirmant que ces combattants ont tué et blessé des dizaines de militaires.
Le corps de Robert Mugabe a quitté aujourd'hui Singapour, où l'ex-président du Zimbabwe est décédé le 6 septembre à l'âge de 95 ans, à destination de son pays, où il doit être inhumé après un hommage national. Mardi, une messe privée avait été célébrée dans un funérarium de Singapour en présence de proches de l'ancien chef d'État.
Robert Mugabe avait été hospitalisé début septembre à Singapour, où selon sa famille, il est mort de vieillesse. Sitôt rapatrié au Zimbabwe, la dépouille sera transportée dans son village de Zbimba, à l'ouest de Harare, pour une veillée funèbre. Jeudi et vendredi, le cercueil de Robert Mugabe sera exposé au stade d'Arufaro, dans la banlieue de Harare, pour permettre à la population de rendre hommage à l'illustre héros de la guerre de libération.
Les trois membres africains non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale ont réclamé hier la levée des sanctions pesant contre le Soudan, notamment son inscription dans certains États comme un pays soutenant le terrorisme.
Dans une déclaration commune, ces trois membres ainsi que la représentation de l'Union africaine auprès de l'ONU rappellent que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a déjà levé ses sanctions contre le Soudan au vu des développements positifs dans ce pays. Il s'agit maintenant de suivre ce mouvement en appelant tous les pays concernés à lever leurs sanctions contre le Soudan, souligne la déclaration des trois membres du Conseil de sécurité. Cette levée doit inclure son retrait de la liste des pays soutenant le terrorisme, ajoutait-il en allusion à celle établie par les États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Amérique marque aujourd'hui le 18e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Les écoles publiques de New York observeront une minute de silence ce jour. Le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, a institué la journée de commémoration annuelle du 11 septembre en signant une loi exigeant que chaque année, toutes les écoles publiques de l'État de New York observent un bref moment de silence en début de la journée.
Toujours aux États-Unis, le candidat républicain Don Bishop a remporté un siège à la Chambre des représentants lors d'une élection partielle en Caroline du Nord, conservant ainsi un bastion tenu depuis longtemps par le parti de Donald Trump. Après le dépouillement de 99% des bulletins, Bishop, sénateur de 55 ans, soutenu par le président, est crédité de 50,81% des voix contre 48,59% pour le démocrate Don McCready, un vétéran de 36 ans, a indiqué le comité électoral de l'État. Le 9e district, une banlieue rurale du sud-est de la Californie du Nord, est aux mains des républicains au Congrès depuis les années 1960.
Le pèlerinage chiite d'Ashura à Karbala, au sud de Bagdad, a été endeuillé mardi par une bousculade qui a fait au moins 31 morts et une centaine de blessés. Bagasikoura.
Cette bousculade est sans précédent à Karbala, alors que le pèlerinage d'Ashura a déjà été marqué par le passé par des attaques d'extrémistes sunnites. L'Ashura, qui commémore le martyr de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, attire beaucoup de musulmans chiites à Karbala. Des centaines de milliers de chiites venus du monde entier, notamment de l'Iran voisin, font le voyage à Karbala en fin de journée lors d'une course rituelle vers le mausolée de l'imam Hussein, les pèlerins se frappant la tête en signe de deuil. Il y a eu une bousculade. Au moins 31 personnes sont mortes et 100 autres ont été blessées, selon le ministère iranien de la Santé, dont certains dans un état grave. Ce drame intervient près de 2 ans après que l'Irak s'est déclaré vainqueur du groupe État islamique.
L'État américain du Texas a exécuté hier un homme 9 ans après une semaine de violence qui s'était conclue par 2 meurtres. Marc Solis, 37 ans, a reçu une injection létale dans le pénitencier de Huntsville. Son décès a été prononcé par les autorités. À présent, le tour d'horizon de l'actualité économique, la Minute Éco, c'est avec Nanit Talani.
Le Congo-Brazzaville s'est doté d'un fonds national pour la finance verte dénommé Système national de l'économie verte. D'après l'agence Ecofin, cet organisme, placé sous la direction de la primature, veut faciliter la mobilisation des ressources financières au profit des projets de conservation et de protection des écosystèmes naturels. Le Congo a su conserver une couverture forestière équivalent à 65% de son territoire. Avec ses 2,5 millions d'hectares de forêts certifiées, le pays est l'un des puits de carbone majeurs de la planète. L'État angolais a cédé 5 de ses unités industrielles à des investisseurs privés pour 16 millions de dollars au lieu de 80 millions qu'il espérait, publie Ecofin. Ces unités industrielles, dont 4 avaient cessé leurs activités depuis 10 ans, ont été vendues dans le cadre du vaste processus de privatisation lancé par le gouvernement depuis quelques mois. Il s'agit des entreprises Carton, Indujidé, Gentex, Univitro et Coberlaine, dont les clés ont été remises aux nouveaux propriétaires lundi dernier. L'Angola prévoit aussi de privatiser 25 nouvelles unités industrielles dans la zone économique spéciale de Luanda-Bingo sur un total de 52. Pour terminer cette Minute Éco, la Chine s'engage à collaborer avec des institutions financières en Afrique. Selon le vice-ministre chinois des Finances, elle collaborera avec la Banque mondiale et d'autres institutions financières internationales pour développer une coopération tripartite avec le continent africain, promouvoir la coopération Sud-Sud et stimuler le développement diversifié et durable en Afrique.
Place au sport de cette édition, Yacouba Ouedraogo, bonjour.
Bonjour Eman, bonjour à tous.
On connaît les qualifiés pour la CAN des moins de 23 ans.
Oui, le Mali s'est qualifié en battant les Lionceaux de l'Atlas à Bamako 1-0. Après son match nul 1-1 au Maroc, c'est passé pour l'Afrique du Sud malgré le nul 0-0 à Harare. Les Bafana Bafana l'avaient remporté 5-0 à l'aller. Belle opération pour la Côte d'Ivoire, vainqueur de la Guinée 2-1 à Conakry. Après la victoire des Guinéens 1-0 à Abidjan, le Nigeria a pulvérisé le Soudan 5-0 pour se qualifier. Le Cameroun a validé son bien en dépit de sa défaite 2-1 en Tunisie. Les Lionceaux indomptables avaient gagné 1-0 à domicile. La compétition se déroulera en Égypte en décembre prochain.
Djibouti historique au tour préliminaire du Mondial 2022.
Djibouti s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de groupe des éliminatoires. Vainqueur 2-1 de l'Iswatini à l'aller à domicile, les Djiboutiens ont tenu en échec leurs adversaires 0-0 au match retour. C'est aussi passé pour le Zimbabwe, vainqueur de la Somalie 3-1, tout comme le Mozambique qui a battu Maurice 2-0 et le Malawi qui a dominé le Botswana 1-0. Le Togo a tiré son épingle du jeu après avoir obtenu le nul au match aller. Les éperviers du Togo ont battu les Comores 2-0.
La Serbie au tapis, l'Espagne et l'Argentine en demi-finale du Mondial de basket.
Vice-champion du monde en 2014 en Espagne, médaillé d'argent à Rio aux Jeux Olympiques 2016 et deuxième de l'Euro 2017, les Serbes ont buté de manière inattendue sur l'Argentine en quart de finale. Dans un match porté sur l'attaque, les joueurs de Sacha Djordjevic ont été battus 97-87. Les Argentins ont été emmenés par un excellent Luis Scola, 39 ans, et encore meilleur marqueur de l'Argentine avec 20 points pour une place en finale, ils rencontreront les États-Unis ou la France qui s'affrontent aujourd'hui. De son côté, l'Espagne s'est logiquement imposée contre la Pologne 90-78. Elle fera face soit à l'Australie, soit à la République tchèque. Dernière affiche des quarts.
Le Nigeria, lui, s'est qualifié pour les Jeux Olympiques.
Oui, si aucune équipe africaine n'a vu le second tour du mondial, le Nigeria a décroché son ticket direct pour les JO Tokyo 2020 après son succès contre la Chine 86-73. Le Nigeria termine ainsi 17e au classement final. Du côté des autres équipes africaines, le Sénégal a perdu 77-79 devant la Jordanie pour une décevante 30e place. La Tunisie a défait l'Angola 86-84 et termine 20e. Les Aigles de Carthage disputeront le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. L'Angola s'en sort 27e pendant que la Côte d'Ivoire s'est accrochée à la 20e place sur 32 pays.
Yacouba, merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Irénée Hermanombo. Le monde aujourd'hui se poursuit sur VOA Afrique. Place à présent au dossier du jour. Les premiers convois de Nigérians fuyant les violences en Afrique du Sud sont attendus aujourd'hui au Nigeria. Abuja, on s'inquiète de leur prise en charge puisque le gouvernement n'a prévu aucune assistance. Le reportage de Gilbert Tamba.
Il serait plus de 600 ressortissants nigérians, selon les autorités, à avoir exprimé le besoin de rentrer au pays après la vague de violence de la semaine dernière visant les Africains étrangers en Afrique du Sud. Lundi, la présidence nigériane a donné les instructions pour commencer l'évacuation immédiate de tous les Nigérians qui souhaitent retourner dans leur pays. Abike Dabiri est la présidente de la commission de la diaspora nigériane.
Nous pensons que d'autres viendront se faire enregistrer, mais pour le moment, nous avons 640 inscrits et deux vols devraient les ramener au pays. Mais en attendant cela, nous continuons à réclamer des compensations pour les Nigérians victimes d'attaques en Afrique du Sud. Nous savons aussi que 8 policiers sont accusés d'assassinat de Nigérians en Afrique du Sud et 4 autres ont été récemment arrêtés. Nous demandons que l'enquête en cours se poursuive pour nous permettre de savoir ce qui se passe.
Le gouvernement fédéral avait reporté la date du rapatriement des Nigériens en Afrique du Sud pour permettre à ceux qui veulent rentrer d'obtenir des laissez-passer. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de papiers légaux et d'autres ont des passeports expirés. Cependant, certains Nigériens craignent que les rapatriés soient abandonnés à eux-mêmes. C'est le cas de Deji Adeyanju, du groupe des Nigériens concernés.
Je sais que c'est la responsabilité de chaque gouvernement de rapatrier ses citoyens lorsqu'ils sont en danger et de s'occuper d'eux. Mais ceux qui sont revenus de la Libye n'ont pas été pris en charge par les autorités. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux Nigérians vivant en Afrique du Sud de trouver d'autres moyens et de rester sur place. Ils doivent se battre et rester en Afrique du Sud parce que la situation ici au pays est plus grave.
C'est une compagnie nigériane, EPIS, qui s'est portée volontaire pour l'évacuation des Nigériens d'Afrique du Sud où vivent plus de 100 000 Nigérians. Le président Muhammadu Buhari a promis de se rendre en Afrique du Sud le mois prochain. Son émissaire spécial, qui est parti la semaine dernière à Pretoria pour rencontrer le président Ramaphosa, est rentré à Abuja ce week-end. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, focus sur la Guinée à l'occasion de la visite du président Alpha Condé aux États-Unis. Le locataire de Sékou Touré est venu promouvoir la destination Guinée aux investisseurs américains. Mais en Guinée, le débat sur une éventuelle réforme de la Constitution occupe à nouveau la une des journaux après l'annonce du président de consultation dirigée par le Premier ministre. Le débat sur un possible troisième mandat d'Alpha Condé est-il fondé? Comment faire pour propulser l'économie guinéenne vers l'émergence? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Ne manquez pas ce rendez-vous avec Abdourahmane Dia. Au Tchad, la commercialisation du poisson frais se fait encore de façon anarchique. Deux marchés modernes de poissons sont construits dans deux arrondissements de la capitale pour permettre aux vendeuses de ces produits de mieux s'organiser. Mais ces commerçantes ont choisi d'abandonner ces marchés et préfèrent vendre leurs produits aux abords des rues, risquant ainsi leur vie. On fait le point avec André Kodmadjinga, notre correspondant en N'Djamena.
C'est sur la demande constante de vendeuses de poissons frais que deux marchés modernes ont été construits entre 2015 et 2017 par les autorités de N'Djamena. Un projet qui vise à développer le secteur de la pêche afin de parvenir à l'autonomisation de la femme. D'une superficie plus ou moins identique, les deux marchés modernes contiennent chacun des centaines de places, des latrines modernes, des chambres froides et des fabriques de glace pour garder les poissons au frais. Mais ces vendeuses abandonnent ce marché pour s'installer aux abords des principales rues, obstruant ainsi la circulation à des heures de pointe. Certaines affirment qu'elles sont à la recherche de la clientèle.
On vend poisson au bord de la rue parce que quand on est à l'intérieur, les clients ne veulent pas aller. Donc, mieux qu'on se reste au bord de boudon comme ça, ils vont payer une fois et puis partir. On a peur, mais c'est Dieu qui nous protège.
On est habitué déjà parce qu'il y a ceux qui rentrent du travail. Parfois, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'acheter les poissons. S'il passe et qu'il voit les poissons, il peut venir acheter avec nous.
On ne sait pas, mais vraiment, tout au risque, il y a d'autant un rimba pour aller à Mandarabani.
Fille Lagoy, présidente de l'Union des organisations des femmes vendeuses de poissons du Tchad, est consciente du risque que ces femmes encourent tous les jours pour gagner leur vie. Cependant, elle accuse les transporteurs de poissons et les agents de la police du 6e arrondissement municipal d'être à l'origine de ces désordres.
Ils veulent qu'on leur donne la moitié de nos hangars parce que ce sont eux qui amènent les poissons. Nous, on n'a pas cédé. Alors, les transporteurs ont mobilisé certaines femmes pour les amener dans les lieux insalubres. D'autres nous ont demandé est-ce qu'elles peuvent rester devant la porte. On a accepté et elles ont progressé. Les gens des communes d'arrondissement, on les envoie aussi pour l'hygiène et l'assainissement. Dans l'Uran, ils vont collecter 250 avec les femmes. Dès qu'ils s'en vont, les femmes progressent. Donc, on a déjà tenu la réunion deux fois. Il ne serait-ce que les réinstaller encore dans les hangars. Celle qui va encore repartir dehors, nous allons impliquer nos tests de base pour la frappe.
Le maire adjoint de la commune du 6e arrondissement, Abakar Kamis, refute ces allégations portées contre ses agents et demande à ses femmes d'être conséquentes.
Une institution qui a demandé un marché et elle-même, elle laisse ce marché pour aller vendre ailleurs. Et c'est une autre institution qui viendra lui faire la pression pour repartir dans son propre marché. Là, c'est vraiment un paradoxe. Ces femmes-là, il faut qu'elles se sensibilisent elles-mêmes. Et si elles ont besoin de notre soutien, on peut déployer la police pour les aider à faire entrer ces femmes au sein du marché.
Nous avons contacté le gestionnaire du marché de la commune du 6e arrondissement pour avoir sa version des faits au sujet du manque cruel d'électricité pouvant permettre à ces vendeuses de garder le reste de leurs produits au frais, mais sans succès. André Kodouma Dingar Ndjamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le président américain Donald Trump a annoncé hier dans un tweet le limogeage de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, avec lequel il était en désaccord sur nombre de dossiers de l'Iran à la Corée du Nord. La nouvelle est tombée à peine une heure après l'annonce par l'exécutif américain d'un point de presse auquel devait participer John Bolton en compagnie du secrétaire d'État Mike Pompeo. Pour Téhéran, le limogeage de John Bolton est le signe clair que la campagne de sanctions américaines contre l'Iran est un échec. Pour un décryptage de cette nouvelle, Idriss Fall a recueilli les propos de Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines.
Ce n'était ce qu'on appelle un faucon. Il veut changer le régime en Iran. Il est très anti-iranien et pour lui, même faire la guerre pour arriver est acceptable. Le président, par contre, il est contre la guerre. Il veut pas que les soldats américains soient tués. Il veut ramener les soldats américains qui sont maintenant en Afghanistan, en Syrie, dans beaucoup de pays. Tandis que John Bolton était très agressif et il veut changer le régime en Iran, dans d'autres pays aussi. Donc, ils étaient complètement en désaccord.
Mais ce n'est pas nouveau parce que John Bolton, à l'époque, quand il a travaillé sous le régime de George W. Bush, c'était un faucon. Ce sont eux qui sont les principaux artisans de la guerre en Irak, non?
C'est vrai. Et donc, je crois que le président, quand il a engagé Bolton, il n'a pas vraiment compris ça. Vous vous rappelez que le président a quitté l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Et il a commencé à faire pression avec des sanctions. Donc, il a pris Bolton comme conseiller parce que Bolton aussi était très anti-Iran. Mais au fur et à mesure qu'ils ont travaillé ensemble, le président a vu que Bolton est beaucoup plus faucon qu'il désire. Donc, ils ne pouvaient pas rester ensemble.
Les discussions avec les talibans en Afghanistan ont certainement joué parce qu'ils devaient annoncer un accord finalement qui n'a pas eu lieu. Est-ce que ça aussi, ça a contribué au départ de Bolton?
Oui, Bolton a dit, si vous voulez ramener des soldats, il faut les ramener. Ce n'est pas la peine d'avoir un accord. Le président Trump a voulu montrer qu'il peut faire des négociations, il peut faire des accords internationaux. Et il n'aimait pas que Bolton ait dit, non, ce n'est pas la peine d'avoir un accord, il faut quitter, ramener les soldats. Donc, ça aussi, c'était une source de dispute.
Maintenant que Bolton est parti et que récemment le président français a dit qu'il tente une médiation entre Washington et Téhéran, est-ce qu'on peut voir d'un meilleur œil une rencontre éventuelle entre Donald Trump et Hassan Rouhani?
À mon avis, oui. Parce que Trump aime faire des accords, comme il a fait dans son affaire de hôtel. Et il voit que les Iraniens sont en train de souffrir maintenant. ils vendent beaucoup moins de pétrole, ils ont beaucoup moins d'argent, la population a moins de choses à manger. Donc, ils voient une possibilité maintenant de négocier. À mon avis, ils vont faire une négociation avec l'Iran.
Tout le monde a à l'esprit la présidentielle de 2020. Donc, est-ce que les boys vont revenir de l'Afghanistan d'ici là, ou bien?
Oh, j'en suis sûr, parce qu'ils veulent montrer à la population américaine, voilà, je suis un homme de la paix, je ne vais plus faire des aventures quand on fait sous Obama, sous Bush, je suis un homme de paix, je ne veux plus la guerre. Donc, ça va lui aider en 2020 pour les élections.
C'était à l'instant Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, joint à Washington par Idriss Fall.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le 11 septembre, 18 ans après, la nation américaine se souvient. Le président Trump et d'autres personnalités vont assister aujourd'hui à des cérémonies pour rendre hommage à près de 3000 personnes tuées dans les attaques terroristes les plus meurtrières sur le sol américain. 18 ans après, les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau sans précédent. Le reportage que nous vous présentons est signé Carla Babb, correspondant de la VOA au Pentagone, et le récit est de Lionel Gaïba.
Le 11 septembre 2001, l'inimaginable est arrivé sous le sol américain. Deux avions percutent les tours jumelles du World Trade Center à New York. Un autre avion tombe sur le Pentagone. Un quatrième avion s'écrase sur un champ en Pennsylvanie parce que les passagers se sont courageusement battus avec les pirates de l'air. Depuis, les dépenses militaires ont atteint plus de 1 800 milliards de dollars en 2018. Peter Wiseman, de l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm.
Nous devons le voir comme un signal d'alarme qui ne va pas nécessairement mener à la guerre, mais qui nécessite une attention particulière.
En 1998, les dépenses militaires avaient atteint leur niveau le plus bas de l'après-guerre froide. Au nom de la lutte contre le terrorisme, les attaques du 11 septembre ont poussé la guerre en Afghanistan et en Irak. Les dépenses militaires américaines ont d'abord fortement augmenté. Par la suite, l'administration Obama a commencé à réduire le budget de l'armée américaine, mais les dépenses militaires sont à nouveau en hausse. Les États-Unis possèdent 11 porte-avions, un arsenal nucléaire énorme, de nouveaux avions de combat dernier cri et plus de 2 millions de soldats. Les experts s'accordent pour dire que l'armée américaine reste la force dominante. Dwight D. Bowman, Fondation pour la défense des démocraties.
Il y a parfois une tendance à donner à la Russie et à la Chine une courte avance, mais ce n'est pas le cas. Il y a des réelles faiblesses là que nous pourrions exploiter en cas de conflit. Mais il y a aussi des domaines où elles sont plus avancées que nous.
La Chine est le deuxième pays qui investit le plus dans l'armée en faisant passer le budget militaire de 2% en 1990 à 14% aujourd'hui. Bradley Bowman, de Fondation pour la défense des démocraties.
Nos alliés et partenaires ne devraient se faire aucune illusion sur le fait que la Chine a entrepris un effort colossal pour moderniser ses forces armées pour nous contraindre et nous vaincre en cas de futur conflit.
La Chine a construit deux porte-avions cette dernière décennie et un troisième est en construction. Elle a développé ses propres avions de combat d'élite et ses troupes sont passées à plus de 2,5 millions de soldats. Et la Chine investit dans les nouvelles technologies, notamment hypersoniques, des armes capables de voler 5 fois plus vite que le son. Peter Wiseman, de l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm.
Ce sera perçu comme une menace par ses voisins. Et ses voisins aussi vont réagir.
Ainsi, l'Inde a augmenté ses dépenses militaires de plus de 11 milliards de dollars en 3 ans pour se placer au 4e rang mondial.
La Russie ne fait plus partie des cinq principaux pays qui dépensent le plus en 2018, mais continue de retenir l'attention de l'OTAN après son invasion de la Géorgie en 2008 et l'annexion de la Crimée en 2014.
Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi à la console. Jimmy Cook, Irénée Armand Rombo à Washington. Bonne journée à tous.